Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Valentin Azan-Zielinski, Lucas Derode et Pierre Monteil. Réalisation Vivien Demeyer. Autour de moi ce soir en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Charles Garçon, Philippe Azoury et Julien Gester. À notre affiche, Sophia Antipolis de Virgile Vernier, En Liberté de Pierre Salvadori. Le grand bal de Laetitia Carton, et puis il y aura un coup de cœur signé Julien Gester pour First Reformed de Paul Schrader, sorti directement en VOD. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le festival Histoire de cinéma qui se déroule du 9 au 17 novembre à la Cinémathèque de Toulouse. Nous ouvrons cette dispute avec le cinéaste Virgile Vernier, dont on avait ici beaucoup aimé le précédent long métrage Mercurial, dont l'action s'est déroulée dans les tours jumelles de la Porte de Bagnolet. Julien Gester était d'ailleurs là, ce jour-là, pour cette dispute. En 2014, le temps passe, Julien. Autre espace pour son nouveau film, Sophia Antipolis, un film que je ne me risquerai pas à résumer, construit qu'il est comme un cadavre exquis, si je puis dire, puisque c'est bien un cadavre supplicié qui va être le fil rouge de ce film très noir.
Il n'y a pas d'histoire en tête, hein.
Invente une histoire, tu t'en fous.
She be talking money, looking bougie down a ride. She wants stacks, stacks pouring down from the sky. I got the antidote, I got the antidote. I be in the keys, 100 racks on a boat. I just caught the wave, now I'm surfing. Haters trying to kill the vibe, it isn't working.
Ce que je veux vous montrer, c'est ces choses qu'on ne voit pas.
L'alerte avait été donnée il y a tout juste un mois. Deux agents de sécurité du site de Sophia Antipolis avaient découvert un corps calciné dans des bureaux vides. Un mois plus tard, l'autopsie a enfin permis de préciser l'identité de la victime. Il s'agit de Sophia Dominguez, une jeune fille sans antécédents judiciaires. Aucune trace de viol ou de drogue n'a pu être constatée sur la victime. Une reconstitution policière va tenter de préciser la piste criminelle.
Ben voilà qui donne un peu le ton, le son. Est-ce que Philippe Azoury, qui essaie de régler son casque, qui n'y arrivera pas, pourrait bien commencer pour parler de ce film, Sophia Antipolis? Vous le mettez bien sur la table, vous lui faites épouser la table pour éviter tout effet de Larsen,
oui,
mon cher Philippe.
Exactement.
Vous êtes un habitué du son. Enfin, Boris Pino est là, qui surgit des coulisses. Philippe, Sophia Antipolis, Virgile Vernier.
Oui.
Bah d'accord, alors Julien Gester. Non.
Next.
Vous voulez développer ou pas?
Oui, si vous voulez. Moi j'étais pas là, moi, il y a 4 ans.
Vous n'étiez pas né en fait.
Maintenant, je fais ma première année là.
C'est oui, mon, c'est bien.
Je fais ma première année de dispute.
Vous savez qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent en première année.
Bah oui, c'est ce que c'est, vous menacez de me lourder. Merci.
Il faut encore que l'émission existe l'an prochain et ça, on n'en sait rien.
Ça, on n'en sait rien.
Allez, ça suffit.
Ça suffit, oui. Non, sublime film. Que je ne peux que recommander. Sublime film qui crée un effet. Est-ce qu'on va oser l'appeler Kiss Cool? Ce serait quand même un peu gonflé. Non, disons que ce film-là, j'ai eu la chance de le découvrir à sa première projection mondiale qui était au Festival de Locarno. C'était au mois d'août. Avec. Je suis le travail de Virgile Vernier d'assez longue date. Depuis Mercurial, mais bien avant Orléans. Un moyen métrage qui s'appelait Orléans que je trouvais vraiment splendide. J'avais beaucoup d'appréhension parce que c'est toujours on a c'est un cinéaste que j'ai envie qui est encore resté très confidentiel, dont j'aimerais que ça enfin son importance soit reconnue, et donc je ne savais pas si ce long métrage dont on disait qu'il était très très risqué, particulièrement risqué, peut-être un peu dark, un peu noir, serait à la hauteur. Et les 15-20 premières minutes m'ont laissé une sorte de sensation durable, mais assez choquante, de sorte de malaise. Et j'avais presque peur pour lui, je pense, une sorte d'amitié comme ça pour un cinéaste ou pour un cinéma, où je me disais, mais où il va, qu'est-ce qu'il fait? Je le voyais rentrer immédiatement dans le risque, ce que font rarement les jeunes cinéastes. Même si lui s'est ensuite fait avec la séduction, mais là, il allait immédiatement dans le risque. Il allait dans une sorte de trait social dans lequel sans la société qu'on retrouve habituellement dans le cinéma français, mais en prenant par exemple des jeunes filles qui voulaient se faire refaire les seins.
Ça commence comme ça, les premières séquences, c'est consultation pré-opératoire. Chez un chirurgien esthétique,
très jeune femme. 3-4 consultations, à la suite de quoi on a une sorte de séance, on ne sait pas du tout si ce sont des scientistes, des scientologues, ou alors une secte, quelle qu'elle soit. Et moi qui viens du Midi, j'ai toujours un peu comme ça, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas chez Virgile Vernier, à cet endroit-là, un regard presque parisien sur ces animaux bizarres que sont les gens du Sud? Heureusement, non. Mais je dis ça avec toutes les précautions parce que, en fait, je me fais l'avocat du diable. J'aime tellement ce cinéaste-là que j'en étais à faire les questions et les réponses, à me dire là, faut qu'il fasse.
On va laisser Philippe pour le reste de l'émission.
Et pour arriver à un moment où, de construction du film, où on ne sait plus exactement où on est, ce que l'on suit, où on découvre, on rentre dans un état émotionnel très très fort, qu'il ne faut pas révéler, d'ailleurs, qui est irrésumable. Ce serait vraiment casse-gueule de le faire. Et arriver à un moment où tout se croise. Et on a un portrait moral, non pas de la ville, Sophie Antopolis, non pas du sud de la France, mais de l'état dans lequel nous sommes tous, nous, aujourd'hui, personnages contemporains, qui est absolument, dont je ne connais quasiment pas d'équivalent dans le cinéma aujourd'hui, qu'il soit jeune ou même dans l'art contemporain, parce qu'on est un peu à la lisière entre les deux.
Et quand, enfin,
quand je dis portrait moral, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout... pour le taquiner en interview, j'ai un peu dit, est-ce qu'on est du côté de chez Martine Parr? Il a laissé trangler Virgile Vernier.
On
n'est évidemment pas du côté de Martine Parr, parce que c'est un cinéaste moral, mais qui ne se débarrasse de tout ce qui était le cinéma moral devait être clérical, s'interdisait des choses. Lui, c'est quelqu'un qui, je pense profondément, a une immortalité morale, comme ça, dans son regard de cinéaste, et qui a besoin de se confronter à ce qui est la violence du monde, la noirceur du monde, la brûlure du monde, le vide du monde, et de s'y confronter vraiment très fort, de se frotter à cela, pour que naisse quelque chose qui soit nouveau dans sa répartition, dans sa façon de le mettre en scène.
Julien Lester, premier regard sur ce Sophie Antipolis.
Ça va être un regard plus frais, puisque moi j'ai découvert le film il y a quelques heures, et c'est presque dommage, parce que c'est un film on sent même avant même que la projection soit terminée, qu'il va laisser une impression très durable, qu'il va nous travailler.
Je confirme, c'est pas pour
je confirme aussi.
Non, je confirme parce que justement, je l'avais vu au mois d'août et il n'a cessé de grandir. C'est une sorte de tâche comme ça.
Voilà. Et pour autant, je vais vraiment prolonger ce qu'en disait Philippe Azoury à l'instant. C'est, je trouve le film stupéfiant, à la fois totalement dans la continuité du travail précédent de Virgile Vernier, à la fois par la manière dont il circonscrit un lieu. Il va s'employer à investir un lieu, mais au sens vraiment premier, c'est-à-dire tourner autour, et au sens d'ailleurs avec une méthode qui est toujours un peu la même, c'est-à-dire d'adresser le lieu par ses marges, en fait, par son contour. Dans Orléans, on commençait par des images vraiment de la périphérie de la ville, de la façon qu'il faudrait établir un profil de la ville à partir de ses remparts, et puis puisqu'il y a par ses douves, en quelque sorte, systématiquement. Et pareil, il y avait quelque chose ça prolonge le climat qui était celui de Mercurial, mais qui était pareil. On a l'impression d'être à Paris en dehors. On savait pas très bien quelle géographie ça établissait ici. Il est toujours question, au fond, à la fois d'ultra contemporanéité par les signes qui nous sont adressés, qui sont absolument ceux de l'époque, et en même temps, il y a un climat totalement mythologique dans le cinéma de Virgile Vernier, et qui passe par du mensonge, par de la reconstitution. Le film est beaucoup constitué d'un réel, justement, reconstitué. À la fois, je crois, pour ce que j'en sais de ces méthodes de travail qui reposent sur des formes de semi-improvisation, mais qui en même temps produisent toujours la même musique d'un film à l'autre. Donc on voit bien que c'est pas juste des gens qui rentrent dans le cadre et qui puis disent ce qui leur passe par la tête comme ça leur passe par leur tête. Il arrive à obtenir quelque chose qui résonne avec une... pas le réalisme, ce que serait du naturalisme ou du réalisme, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais quelque chose avec notre réalité sous une forme un peu... hypnotique, un peu à la fois éteinte, endormie, et en même temps ultra crue. Et le film passe beaucoup, je disais, par des formes de reconstitution, de simulation. Donc on va simuler la chirurgie qui va être pratiquée en traçant des points de découpe sur les poitrines de ces jeunes femmes. On va reconstituer une forme de bataille dans un labyrinthe laser avec des enfants, va reconstituer une scène de disparition, en tout cas de mort. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, ce qui arrive à une jeune fille qui a été brûlée. Et la ville elle-même est reconstituée à partir de, je crois qu'il a filmé un peu là-bas, mais quand on suit le générique jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'il a filmé également en Aquitaine. Mmh. On reconnaît quand on fréquente la ville de Cannes, notamment au mois de mai.
Les bijoutiers.
Voilà, les bijoutiers, et surtout un carrefour qui est celui de la quinzaine des réalisateurs. Et donc tout ça, on sent qu'il s'agrège ici des matières extrêmement composites qui participent à une forme de chant, pour le coup très, très, très tenu, alors qu'il n'y a pas d'intrigue à proprement parler qui survienne. La bande-annonce qu'on a entendue tout à l'heure pourrait tout à fait être celle d'une sorte de thriller télévisuel, etc. Sauf que le film a à voir avec ça, sauf qu'on aurait soustrait toute intrigue. Ça me fait beaucoup penser, en un sens, même si les moyens engagés ne sont pas les mêmes, même s'ils ne filment pas de la même manière, à un film qui était Les Bruits de Récif de Kleber Mendonça Filho, qui était cette forme de portrait choral d'un endroit, d'une société, d'un présent à un moment donné. On mettait en place tous les personnages, tous les ferments d'une intrigue, mais l'intrigue n'advenait jamais véritablement.
Ça partait ailleurs, voilà. On va dire.
Et on, peu à peu, se mettait en place un réseau, et c'est vraiment ce qui se passe là. Il y a des choses qui résonnent, qui riment entre les différentes situations. Tous ces personnages ont un trou en eux, que ce soit du temps, une perte, un personnage, et on se retrouve face à comment le combler, et souvent par quelque chose d'intensément virtuel, mais qui ressemble diablement à notre réel.
Nous n'avons pas encore entendu Charlotte Garçon s'exprimer sur ce film de Virgile Vernier.
Oui, vous parlez de simulation. Effectivement, la matrice de tous ces petits récits, on a l'impression que ça ne peut être que la simulation. Et on voit bien le rapport avec le vide, la solitude, existentielle ou pas, des différents personnages. Mais aussi, c'est quand même très ancré dans la ville qui est un simulacre de ville, qui est quand même très étrange. Sophia Antipolis, dont on comprend, même si on la connaît pas. D'abord, c'est une ville sans histoire, histoire au sens historique.
Nouvelle.
Voilà. 69. Alors, un petit peu indépendant. Début d'histoire, mais et surtout ce que remarque le vigile un peu expérimenté du film, il dit en fait il n'y a pas de différence. Avant c'était une forêt, mais là il n'y a pas de clôture entre le parc et la ville. Et c'est embêtant parce que du coup pour lui en tant que vigile ça pose des problèmes. Alors on entend ça, on se dit c'est intéressant ces villes sans clôture. Et en fait tout de suite, très peu après dans la même séquence, les vigiles s'arrêtent et font fuir un petit couple d'amoureux adolescents en disant « Vous devez partir, c'est une propriété privée ». Et donc on s'aperçoit qu'en fait ça rentre complètement en contradiction avec cette idée d'une cartographie de la ville un peu comme ça mélangée, enfin où il y aurait pas vraiment de limites. Au contraire, moins il y a de limites et plus il y en a partout. Des limites. Et de même que, j'allais dire, moins il y a de police, avec anti-police, plus il y a de milices. Parce qu'il y a aussi tout un segment du film qui est le plus inquiétant, peut-être, qui montre des gens qui s'entraînent à...
Des citoyens responsables, qui s'organisent.
Oui, qui s'entraînent à...
Ils se voient comme ça. La montée du fascisme.
Ils se voient comme ça.
Le Cala système, donc, pour être prêt en cas d'attentat, mais en réalité,
ils font
aller
des rondes,
aussi... Voilà, pour aller aussi faire des espèces d'opérations punitives, pseudo-morales, qui peuvent être évidemment extrêmement dangereuse. Donc moi j'aurais presque tendance à retitrer le film La jeune fille et le vigile, parce que c'est vrai que la jeune fille c'est un personnage qui revient tout le temps dans les films de Virgile Vernier, pour moi même presque un peu trop dans le film, on est toujours autour de ce personnage de jeune fille. Et en même temps, le vigile, les deux étant des figures, vous le disiez presque mythiques, d'une forme d'esclavage moderne quand même. Enfin, on sent que... C'est pour ça que moi, le film m'a plutôt fait penser à propos de Nice, de Jean Vigo. Désolée de remonter à l'époque du muet.
Pourquoi
où finalement...
Mes voisins géographiquement.
On passe désolé.
Voilà. Et où ce sud était... à la fois, on montrait... Il filmait le carnaval et en même temps, il montrait la figure... de grotesque, macabre et aussi obscène du point de vue social de cette Côte d'Azur là. Donc là c'est sur un mode beaucoup plus froid et avec des tons presque de fantastique rentré, mais j'ai eu cette impression aussi très très critique et forte d'apocalypse en fait, presque il y a des...
Le climat aussi incroyable.
Mais c'est vrai que, alors n'ayant vu ni le film en août ni aujourd'hui, mais il y a 3 ou 4 semaines, je confirme qu'il prend de plus en plus de place, ce film de Virgile Vernier. Moi, c'est vraiment un cinéaste qui me passionne et qui là m'a vraiment terriblement fait peur aussi, parce que c'est quand même aussi une sorte de film miroir qui nous montre quand même très clairement dans quel monde on est. Alors, même si c'est ça que j'aime aussi chez lui, c'est qu'on est assez déstabilisé. On a quand même envie, nous, de spectateurs, d'être malmenés. On disait irrésumable parce qu'effectivement, on passe d'une séquence et d'un groupe de personnes à un autre et sans que tout. On voit très bien comment ça s'arrange, mais c'est très morcelé. En fait, c'est extrêmement structuré. Hein, on s'en aperçoit quand le film s'achève, et très fluide aussi, ce qui est très bizarre de dire une chose pareille. Mais donc ça, très bien. Mais c'est vrai que passer ces premières séquences, où moi aussi j'étais inquiet pour lui, je me dis qu'est-ce qu'il va faire chez chirurgien esthétique avec ses aspirantes télé-réalité, film miroir, parce que quand il y a un personnage, par exemple, qui dit. C'est la fin du monde. Non, la fin du. Ce monde est à sa fin. C'est pas du tout pessimiste pour elle. C'est pour dire formidable, on va pouvoir en faire un autre. Sauf que c'est pas franchement ce que j'entends, ce que je pense entendre de la part du cinéaste Virgile Vernier. Et sans rien évidemment divulgacher de plus, moi c'est la fin de ce film est quand même une des fins les plus saisissantes, stupéfiantes, marquantes, impressionnantes que j'ai vues. De ma vie. Je vais dire carrément comme ça, Philippe Azoulay.
On voudrait dire qu'elle est glaçante et en même temps elle est brûlante. Enfin,
bon, elle reste mystérieuse.
Elle laisse une marque en tout cas. Mais oui. je suis comme vous, Arnaud, je suis comme Charlotte, comme Julien, c'est-à-dire je suis sidéré par ce qu'il arrive à faire au montage, par ce qu'il arrive à trouver en termes de nouvelles narrations, comme si en 2018 on pouvait encore trouver des manières de raconter.
La preuve.
Et c'est vrai qu'on disait les bruits du récit, Charlotte remontait à Jean Vigo, c'est-à-dire à 1929, c'est 29 à propos de Nice. Il est aussi contemporain d'un cinéaste argentin dont on a pu voir une toute petite sortie la semaine dernière en deux séances en France. Un cinéaste s'appelle Teddy Williams, à la Auge d'Alumano. Film incroyable avec lequel aussi.
Un ancien Dufresnois, cinéaste extraordinaire.
C'est extraordinaire, ouais. Ça sort mal en France, on ne sait pas pourquoi. Et on voit à quel point ces deux cinéastes-là, qui sont peu ou prou de la même génération, qui sont aussi passés par des écoles d'art, il y a peut-être quelque chose avec ça, mais dialoguent réellement sur le fragment, sur prendre un groupe, l'abandonner, passer à un autre groupe, peut-être même passer dans une autre région, dans un autre, en tout cas, un autre espace-temps, et finalement tout recouper pour redonner une vision globale du monde. Qui est dans les deux cas, enfin post-internet, post-fake news, post-fabula, post tout ce que l'on veut, mais qui fait que c'est le présent tel qu'il est aujourd'hui, qu'il est à la fois angoissant et il est représenté, et il est enfin représenté.
Julien Gester.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une des marques, je pense, du cinéma de Virgile Vernier. Ce qu'il nous présente, c'est une réalité absolument terrifiante et qui est absolument reconnaissable comme la nôtre. Je pense que c'est un des très grands films politiques qu'a produit le cinéma français au cours de dernières années, et c'est vraiment regrettable que le film bénéficie d'une sortie aussi restreinte. Je sais pas s'il faut blâmer soit le distributeur, mais plutôt peut-être les exploitants. Qui l'ont pas forcément donné plus de place. Je pense qu'il doit y avoir une quinzaine de salles en France. Il y en a deux à Paris et aucune dans la moitié nord de la capitale. C'est hallucinant quand on voit un film pareil. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce film, aussi terrifiant, aussi coupant soit-il dans son hypothèse de la réalité, pour prendre une expression de mon collègue Marco Suzal qui a écrit sur le film dans Libération, c'est une hyper-réalité spéculative presque. Enfin, c'est très étrange, c'est entre-deux, entre quelque chose d'absolument mordant et vaporeux, enfin, hypnotique. Voilà. Tout ça pourrait être irregardable si le cinéma de Virgile Vernier n'était pas absolument sensuel aussi par son usage du 16 mm. Par la précision de sa mise en scène, par la manière de mettre en scène ce monde absolument froid sous un soleil qui est brûlant. Et là-dessus, de dire que là-dessus, sur cette ville qui n'a pas d'histoire, mais qui voit des peurs, des hantises quasi moyenâgeuses, millénaristes ressurgir, qui où tout le monde est seul et face au vide, voilà, le soleil brille aussi. Le film le rappelle dans chacun de ses choix de cadre, de montage, d'éclairage, et dans sa manière même de travailler la pellicule, c'est ses couleurs particulières. Ça ressemble au sud et ça ressemble à un autre monde. Enfin, c'est vraiment vraiment stupéfiant.
Michel Garçon, encore un mot ou pas?
Je serais pas aussi laudative que vous,
mais j'entends bien.
Voilà, parce que je trouve que les segments, parfois, effectivement, alors il y a un effet de boucle entre le début et la fin, mais ces portraits qui glissent un peu l'un sur l'autre, moi je trouve ça un peu ennuyeux au moment où je suis en train de regarder. Et je sens un peu le film d'artiste aussi.
Ce que ça veut dire, voilà. Ça, Charlotte. Oui, c'est indigne de vous, une expression pareille.
Non, mais je trouve que ça sent un aspect expérimental qui est le plus souvent très réussi. et qui parfois, moi, me perd en tant que spectatrice. Mais bon.
Allez voir.
On a pris un peu de temps pour parler de Sophia Antipolis, parce que voilà, une distribution en salle qui n'est pas pour nous, pour certains d'entre nous, à la hauteur de ce très grand film de Virgile Vernier qui est sorti sur les écrans donc mercredi dernier. On va parler ensuite dans la dispute de En Liberté de Pierre Salvadori, du Grand Bal de Laetitia Carton et également de First Reform de Paul Schrader.
La dispute France Culture. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute cinéma, toujours en direct du Bel Air, et on change radicalement de registre avec En Liberté, le nouveau film de Pierre Salvadori qui succède à des films comme Les Apprentis, Hors de Prix ou Dans la Cour. Nouveau binôme, parce qu'il y a souvent des binômes chez Salvadori, ce serait Adèle Haenel ici et Pio Marmaille, respectivement flic et ancien taulard, mais elle est aussi la veuve d'un policier qu'elle découvre ripoux post-mortem et qui a envoyé donc un innocent en prison. On le sait assez vite dans le film, je ne lui gâche pas grand-chose. Elle va chercher à se racheter. Mais un troisième personnage est de la partie, un autre policier, amoureux de sa collègue, incarné par Damien Bonnard. Quelle bonne surprise de retrouver celui qu'on avait vu à l'affiche de Rester Vertical d'Alain Guiraudy, mais aussi dans Mercurial de Virgile Vernier. Il existe un lien entre ces deux films, il était ténu.
C'est comme ça?
Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais.
Il était fort, papa.
Mais vous êtes qui?
Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean.
Putain! Jean, c'était un époux.
Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable.
Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison.
Est-ce que je cherche les cigarettes? Je reviens dans 5 minutes.
Tu vas encore avoir mon tournage. Mais je vais te faire voir là, t'es déjà là, comprends pas ce que vous.
T'en peux pas tirer mes bras, tu dois t'allumer!
On l'a utilisé des camels.
Donne-moi!
Hey Yvonne, ça va? Il va bien le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs corse.
Louis, c'est notre faute tout ça! Il est perdu ce type, il est complètement largué!
Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Oh. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de temps, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir? Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règne de ce mec?
Vous pensez que vous en avez pour longtemps?
Je suis désolée, je suis encore au travail.
Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît, avec du pain.
Je vous demandais de régler, quitter l'établissement.
Je m'attendais un peu plus de souplesse.
Mais oui, non, enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais...
Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes?
Vous vous foutez de moi, là?
2 heures de retard, vous foutez le feu à la vie.
Vous en avez pas marre, moi?
Ta gueule, mais bien sûr que j'en ai pas marre de vous.
Oh, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même.
Pardon, je...
En Liberté, Pierre Salvadori, bon, c'est évidemment une plus grosse sortie, et tant mieux pour lui. Moi, c'est Pierre Salvadori, c'est un cinéaste que, pour qui j'ai de l'affection, de la tendresse, et aussi, il y a certains de ses films que je tiens en haute estime. C'est Julien Gester qui commence à nous parler d'En Liberté avec un autre point commun.
Oh ben, au moins, c'est le Sud, déjà. Mais pas seulement, finalement, parce qu'il y a énormément de choses qui opposent les deux films, à la fois un régime de... une échelle de production beaucoup plus industrielle ici. Il y a la dimension, il y a l'écriture du film. On parlait d'un film presque sans intrigue dans le cadre de
Virgile Vernier.
Sophia Antipolis de Virgile Vernier. Là, le film déjà a une intrigue très très massive et puis en fourmi par ailleurs. Et c'est son sujet. Et c'est là qui rejoint d'ailleurs le film de Virgile Vernier quelque part. C'est-à-dire que c'est beaucoup à faire de, même si tout ça ne se passe pas au même rythme, au même tempo d'écriture, avec la même intensité, le même engagement d'énergie des acteurs, c'est beaucoup, il n'est question quasiment que d'histoire qu'on se raconte pour combler notamment un vide, une absence, une frustration, et puis aussi parce que de toute façon, on n'accepte pas finalement, on finit toujours par buter sur de la fiction, donc autant on poser de la fiction sur de la fiction, on est plus ou moins d'équilibre, ça va s'écrouler, donc on va essayer de rééquilibrer avec, etc. Et on remplace, c'est un film où on passe son temps à remplacer un masque par un autre, à passer de l'un à l'autre, et à trouver des béquilles dans tous les sens à ça. Et je trouve que c'est un film qui est forcément un tout petit peu inégal par endroit, parce que mais c'est à la mesure de son ambition qui est je trouve extraordinaire, réparatrice presque pour quelqu'un qui a un peu d'intérêt pour la comédie, pour la comédie en France en particulier. Pierre Salvadori est un cinéaste qu'on voit venir depuis longtemps, qu'on va monter. Je trouve que c'est peut-être son film le plus ambitieux, à la fois, je pense, peut-être pas d'un point de vue industriel, parce qu'il s'est à un moment donné hasardé à des choses un peu plus montées en chantilly au début ou au milieu des années 2000, et qui n'étaient pas forcément ses
meilleurs, que je citais.
Par exemple, ouais, mais qui n'étaient pas forcément ses meilleurs films. Et là, je trouve qu'il a un point d'équilibre absolu entre une ambition de comédie populaire avec un certain nombre d'acteurs connus, d'autres moins, mais qui sont tous vraiment assez étincelants. Et surtout, je trouve, et ça fait partie des qualités du film, dans cette manière dont une histoire va être racontée et puis va être réécrite en permanence tout au long du film, et où les personnages vont réécrire leur rôle, etc. Les acteurs sont eux-mêmes ont une habilité, une capacité à se transformer, à évoluer d'un registre à l'autre tout au long du film, qui est vraiment assez stupéfiante, et tout en restant relativement en harmonie. Quitte à parfois même à ce qu'ils créent presque une micro-fiction autour d'eux, mais non pas le personnage, mais l'acteur. Il y a un moment où on se dit qu'Audrey Tautou ne peut pas, en fait, ne pas trimballer Amélie Poulain autour d'elle. Il y a une scène qui pourrait être une très belle idée de scénario à Pierre Salvadori qui me téléporte chez Jean-Pierre Jeunet, ou une histoire de retour à la maison qui est répétée à plusieurs reprises. Mais je trouve que le 95% du film montre plutôt Pierre Salvadori à son meilleur comme cinéaste qui est ambitieux pour l'écriture de comédie en France, pour la mise en scène de comédie en France, pour ce que peut être un acteur de comédie en France. Et le film, je trouvais extrêmement riche, inépuisable, y compris parfois dans ses petites faillites, dans ses limites, et je trouve porté par une énergie qui, je ne sais pas combien de temps il a passé au montage là-dedans pour faire tenir cette mécanique pétaradante qui en plus dévie, enfin se casse la gueule à nombreuses reprises, et puis repart jusqu'à un moment qui est un final qui je trouve totalement déchirant. C'est vraiment un accomplissement remarquable.
Eh bien, quelle introduction, Charlotte Garçon, même plaisir devant En Liberté.
Oui, absolument jubilatoire. Et c'est vrai que je trouve que à un moment, l'héroïne dit sors-moi du formol. Et parce qu'elle ne travaille plus, elle était policière et elle ne peut plus vraiment exercer son métier dans l'action. Et en fait, moi, j'ai entendu ça comme une supplique de la comédie française, parce que finalement la comédie française actuelle, disons industrielle comme vous dites, elle est prise entre faire un très très gros casting avec des gros acteurs dont on est sûr que voilà, le financement, ils assureront le financement.
Dont on est de moins en moins sûr qu'ils assurent un succès.
En tout cas, on essaie. Et ouais. Ou à l'inverse, faire des choses peut-être plus rétro, et peut-être qu'on aurait été tenté, en voyant d'autres films de Pierre Salvadori, de penser qu'il va puiser dans la comédie sophistiquée américaine, et qu'il la francise, et que ce serait un peu sa marque de fabrique. Or, en fait, je pense pas. Et je pense qu'il propose aussi d'autres choses. Il y a une petite touche Lubitsch, mais
une petite touche.
ou Grégory Lacava d'ailleurs, pas forcément Lubitsch, mais ça n'est absolument pas du cinéma rétro. Et surtout, il occupe tous les domaines, c'est-à-dire que vous le disiez, il y a une ossature très rigoureuse du scénario avec ce retour de l'histoire racontée à l'enfant, au chevet de l'enfant, qui est d'abord vise à faire du père policier un héros, et puis
plus ça commence comme un battement d'eau des années 70.
Oui, complètement, avec la musique un peu Blaxploitation. Et en même temps, c'est lui-même qui écrit les dialogues. On sent qu'ils sont extrêmement ciselés, qu'il n'en a absolument rien à faire qu'ils aient un son écrit, qu'il n'en a rien à faire de la vraisemblance. C'est nos amis les vraisemblants, enfin nos ennemis, comme disait Hitchcock. Voilà, on est dans un autre domaine que cela. Et puis en même temps, il y a énormément, avec une grande générosité, je trouve, des gags visuels, des gags qui sont purement visuels. Un chauffeur de taxi qui est inquiet parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui est un criminel en puissance. Qu'est-ce qu'on voit tout à coup? On n'est plus du tout à l'intérieur du taxi sur le chauffeur. On est en plongée sur la voiture et il écrase des plots. Vous savez, ces plots un peu creux en plastique. Et on entend tac, 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 parce que il est
nerveux.
Il tient
plus la route, là.
Évidemment, décrire un gag visuel à la radio, ça tombe complètement à plat. Mais en fait, le film n'arrête pas de faire des propositions visuelles alors qu'on est encore en train de réfléchir au dialogue qui vient d'être dit. Donc, en fait, moi, c'est cette générosité-là, même si parfois ça tombe à côté, peu importe.
Bon, vous l'avez bien fait quand même, Charlotte Garçon, parce que je ne sais pas si Philippe Pazuri se risquera à décrire un gag visuel.
D'autant plus qu'il n'a pas aimé le film.
Enfin, petit sensus.
Le vrai gag visuel, il est peut-être là. Non, j'aurais tellement aimé, moi aussi, enfin, partager, parce que j'aime beaucoup Salvadori. J'adore Les Apprentis, j'adore Cible émouvante. Enfin, vraiment, c'est le premier film. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un dont on peut y suivre, regarder les filmographies, travailler avec le même producteur depuis 25 ans, le même musicien depuis 25 ans, Camille Bazbaz.
Il a changé de chef-op, et c'est important pour ce film.
Il a changé de chef-op, oui, mais c'est pas forcément sur ça que je suis... C'est peut-être ça, pour moi, le point un peu faible. Je vais y revenir. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, manifestement, a une telle fidélité, doit prouver que c'est quelqu'un de bien. Je ne l'ai jamais rencontré, les interviews... Quelqu'un qui cite Jonathan Demme et Dangereuse sous tout rapport est pour moi forcément un ami. En plus, ça nous change des gens qui font de la comédie habituellement en France, enfin qui globalement ne parlent que de la télévision parce qu'elle vient de là et qu'elle doit y retourner et qu'elle passe au cinéma pour braquer. Lui, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui m'est énormément sympathique, comme ça, a priori. Et j'avais pas vu le film à Cannes, donc j'y suis allé il y a un mois, une projo, une avant-première publique. Avec vraiment l'idée, enfin, à Cannes, ça avait cassé la baraque, tout le monde disait entre ça, je crois que successivement, il y avait eu coup sur coup Le Grand Bain et je sais pas dans quel ordre, et En Liberté, et tous mes confrères et souvent amis critiques, des gens avec qui je partage des goûts, des valeurs, me disent, voilà, ouais, c'est formidable, il y a enfin de la comédie à la française.
Au fait, Philippe Azoré.
Ouais, mais au fait, c'est que le film est pas là, enfin, je le vois pas.
Il est où?
Le film, il est où? Il est chez les acteurs, ils sont formidables. Alors effectivement, il est chez les acteurs parce qu'il a aussi une idée, il a une historique des acteurs, c'est-à-dire d'un côté, il a un personnage. Parce qu'un acteur, c'est aussi d'abord un personnage chez lui. Il a un personnage d'un faux coupable, donc il vient de chez Hitchcock, et une jeune femme. Donc...
Un personnage et une personnage.
Comment dire, je
une
sais
persona.
Plus. Une persona qui vient de chez Lubitsch, enfin voilà, et qui nous rappelle, enfin Delaney nous rappelle Miriam Hopkins dans Serenade à 3. J'adore cette idée-là, c'est Julien Welter qui a écrit dessus, en Grazia, qui a essayé de m'expliquer comme ça. J'adore ça, tout sur le papier me plaît, et je ne comprends pas, quand je lis partout, cette espèce de rythme effréné, je ne trouve pas le film bégaye deux, trois fois la même scène coup sur coup. À l'image, je ne le trouve pas du tout gracieux, enfin, je trouve qu'il est emprisonné dans quelque chose qui sent un peu là, une France qui va trop vite dans son travail, qui bâcle. Je n'y vois que de la jubilation de jeu. C'est pas mal. Enfin, tant mieux. Le film n'est pas un ennemi pour moi, mais je le trouve bien en deçà des éloges que je lis partout. Je voudrais vraiment que le film soit là. Bonnard est fantastique, Pio Marmaille est fantastique, Adèle Haenel est géniale, et en même temps, tout ça ne produit qu'un produit français moyen. Enfin, je suis désolé.
Ça le produit français moyen, ce serait bien.
Non, mais il se trouve que j'ai vu le film. C'est peut-être ça l'erreur. J'ai amené deux amis. Qui l'un anglais et l'autre italien qui vivent à Berlin, ils ont regardé le film en étant un peu. Les comédies allemandes,
ça, c'est vrai. Vraiment. On a des leçons à prendre.
C'est ça le haut du gratin de la comédie, mais je suis pas du. En disant qu'il va à Berlin, je donne le bâton pour faire parce que moi-même, je me suis dit, mais avec les comédies que vous nous proposez, merci. Ouais. Mais en même temps, je partage ça avec eux.
Bon,
j'ai une déception, quoi. J'ai une énorme déception sur le film, mais en même temps, c'est pas un ennemi.
D'abord, il me semble que si on le déplie un peu le film, n'est pas uniquement comique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a un rythme effréné et qu'il commence sur une scène voilà, comique et très distancée.
C'est ce que je préfère à la première scène.
Très distancée que dans tout le film, l'ambition n'est que comique. Il me semble qu'il déploie quand même quelque chose dans l'ordre du rapport amoureux, aussi auto-réflexif par rapport au cinéma, parce que la scène de retour à la maison dont vous parlez, c'est vraiment once more with feeling, hein, refaire une prise dans la vie, parce que des fois dans la vie, on aimerait bien pouvoir, comme au cinéma, refaire faire quelque chose différemment à l'autre. Et d'autre part, vous disiez, mais il y a que les acteurs qui sont bien. Bon, déjà,
c'est déjà pas mal.
Qu'il y a de la jubilation.
Non, mais plus que ça, c'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que le scénario lui-même, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui a payé à la place d'un autre. Et à partir du moment où il a été emprisonné, donc à la place d'un autre, à partir de ce moment-là, on a l'impression que il est complètement explosé psychiquement, et donc il est ouvert à toutes les pulsions, c'est-à-dire les pulsions de celui pour lequel il a payé, tout le traverse, absolument tout le traverse, donc il sort de prison et il est sans filtre, si on veut. Et moi, j'y vois quand même là une espèce de modèle de l'acteur selon Salvadori, c'est-à-dire que c'est un personnage, c'est une sorte d'acteur idéal et destructeur. Donc il y a une dimension, je trouve, vandalisante dans la comédie qui est beaucoup plus subversive que ce que vous en dites comme étant une production moyenne.
C'était pour grossir le trait. Effectivement, ce travail sur l'acteur, il le mène depuis ses premières collaborations avec Guillaume Depardieu, qui était magnifique et qui reste magnifique et qui, je pense, on proposait à Guillaume Depardieu avec Rivette de l'autre côté ce qu'il pouvait faire de mieux.
Oui, mais c'est pas seulement mettre en valeur des acteurs. Ou le travail de l'acteur, c'est quelque chose sur la vie, c'est-à-dire le fait que la fiction et le jeu, c'est la réinvention de soi pour tout le monde.
Charlotte Garçon, c'est exactement précisément l'endroit où pour moi le film pêche, c'est que tout ce que vous dites et que je vois, parce que tout ce que je lis à droite à gauche, je le vois, je sais que c'est là, et je sais que c'est là de façon théorique et que je ne vois que ça n'est traversé par aucune rythmique, aucune musicalité parfaite. Enfin, je trouve que le film tombe à plat 9 fois sur 10, mais c'est un abîme d'ennui.
Alors, un abîme d'ennui. Moi, je dirais qu'il marche à cloche-pied le film,
Je veux bien baisser la garde et dire un clochard.
Ah non, mais c'est pas pour faire baisser votre garde, c'est ce que peut-être... je pense. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté évidente de pas s'en tenir à une seule ligne mélodique, ce que disait Charles Garçon. Mais le problème, c'est que pour moi aussi, ça génère certaines baisses de régime. Je crois que Julien le disait aussi tout à l'heure. Mais quand on aime le film, on aime aussi ces baisses de régime. Mais ce qui n'est peut-être pas tout à fait mon cas. Et même si, encore une fois, les comédiens sont ce qu'ils sont et que l'écriture est vraiment...
Oui, tout ça est fait par des gens qui sont intelligents, vachement bien, qu'on a envie d'aimer, enfin, c'est ça.
Mais voilà, quand j'ai à cloche-pied, c'est que j'étais dedans par intermittence et malgré tout, j'aurais eu envie d'y être tout le temps. Julien Gester.
Non, mais de toute façon, ça va avec ce que vient de dire Charlotte, c'est-à-dire que la dimension à cloche-pied, ça tient aussi à l'ambition du film d'embrasser à la fois une comédie très, plus pluriel dans ses moyens d'expression, à la fois lors du dialogue, du gag écrit, du gag visuel, du gag sonore, du gag de caractère, mais aussi ça raconte un drame quand même, c'est-à-dire un double drame en quelque sorte, ou même un triple si on inclut le personnage de Damien Bonnard, mais à la fois de ce type qui a un drame irréparable, au sens où ce type a payé ses 8 ans qu'il n'aurait pas dû payer, c'est irréparable. Cette fille se rend compte qu'on lui a menti et qu'en plus il y a une victime collatérale et le type se trouve
le nombre de victimes,
il y a un certain nombre de victimes collatérales le type est mort, donc il n'y a pas
Philippe Azori
il n'y a pas grand chose à voir et voilà, et tout ça se déploie dans une espèce d'hyper emballement de fiction qui se répète, mais ça c'est le principe d'écriture même du film, que les choses se jouent,
je dirais pas hyper emballement, c'est là que je rejoins Philippe, c'est-à-dire que moi je suis absolument pour l'ambition et encore une fois Salvadori, j'ai été en très haute estime pour moi, c'est un cinéaste qui compte. Je vois l'ambition, il me semble qu'elle n'est pas complètement remplie. Mais
ce que je veux dire, c'est ce qui se répète, c'est que c'est son langage même. Enfin,
Non, on avait compris. Ouais. Dernier mot, Charlotte Garçon.
Oui, je voulais signaler la parution d'un livre aux éditions Playlist Society qui s'appelle Pierre Salvadori, le prix de la comédie, de Nicolas Tellop, qui signe une analyse de toute l'œuvre. Quentin Mével et Dominique Toula, qui eux font un entretien film par film jusqu'à En Liberté avec Pierre Salvadori.
On a envie de le lire, ça s'appelle
Pierre Salvadori, le prix de la comédie.
Et le film, ça s'appelle En Liberté.
I've decided to keep a journal, to set down all my thoughts and the simple events of my day.
Reverend Toller?
Yes, Mary.
You must come over. You must come over now.
My hands shake as I write these lines.
C'est le moment du coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a entendu dans ce coup de cœur ? On a entendu quelques bribes venant d'un film de Paul Schrader. On rappelle, Paul Schrader, scénariste, réalisateur. Longue carrière dans le nouvel Hollywood, on va dire ça comme ça pour faire vite. Notamment scénariste de Taxi Driver. Comme ça, on le dit, c'est fait.
Obsession, The Raging Bull.
Oui, quelques autres. Et là, ce film, First Reform, qui n'est même pas sorti en salle chez nous.
Ben voilà, c'est tout le problème. C'est-à-dire ce coup de cœur va commencer forcément par un coup de griffe contre le destin, le sort qui est fait à ce film. Mais je ne sais pas s'il faut y voir un travers de la politique des auteurs qui fait quand un auteur est, comme Paul Schrader est un peu une fin de carrière un peu inégale, un peu faite d'errement, on considère qu'on devient incapable de voir en fait que son dernier film est peut-être un des meilleurs. Que c'est peut-être la première fois, mon sens en tout cas, que Schrader revient depuis 20 ans. Il y a 20 ans, c'était des films, même plus, notamment comme Mishima, Hardcore, La Féline,
Blue Collar.
Blue Collar. un peu en dessous American Gigolo. Ah,
mais là, comme réalisateur, il n'a jamais eu beaucoup de chance. En tout
non, cas, mais voilà, disons qu'il a une fin des années 90 et des années 80 très tenues, en tout cas en termes de production, à la fois en termes de prolificité et puis de qualité de production. Et bon, et depuis, c'est peut-être un peu plus inégal, mais il y a des choses à revoir, il y a des choses à sauver. Et ce film-là, je pense, est à la fois une somme un peu tardive de tout ce qui se concentre dans son cinéma depuis longtemps, et un film absolument, enfin, indépendamment de l'itinéraire de Paul Schrader, on peut décider qu'on se fiche éperdument, un film absolument magnifique, et qui est d'ailleurs, alors c'est pas pour trouver vous allez voir qu'avec Le Grand Mal, je vais m'arrêter, mais des points communs à tous les films avec Sophia Antipolis, mais qui est à rapprocher du film de Virgile Vernier. C'est intéressant qu'un jeune cinéaste très inspiré, un vieux cinéaste qui compile un peu ses obsessions à l'aune du contemporain, aille vers un même endroit, qui est à la fois un endroit de climat d'apocalypse, un peu latente, et qui est un endroit aussi bressonien, puisque le film de Vernier, je pense, évoque ça dans son écriture, le film de Schrader, absolument, dans son espèce de minutie, d'ultra-précision, de minéralisme transcendantal, on pourrait dire, où il raconte, pour résumer rapidement l'affaire, la rencontre en gros d'un prêtre endeuillé, reculé, qui mène une vie d'ascèse avec un jeune couple, et notamment un jeune militant écologique radical qui est frappé d'un désespoir tel par la situation, par la perte à laquelle court le monde, disons, qu'il ne peut pas envisager d'être père, et sa femme est enceinte. Ils ont une conversation qui est une scène, une des plus belles scènes que j'ai vues aussi. Enfin, alors j'aurais aimé dire au cinéma, mais sur un écran en tout cas cette année, puisque le film, donc on le redit, ne sort qu'en VOD, et qui, à partir de cette scène, va s'opérer une lente descente, peut-être pas aux enfers, mais dans le doute, dans les flammes vraiment d'un mélange de désespoir et d'interrogation du monde et de ce en quoi il lui restait à croire pour ce prêtre, face à la fois à la liquéfaction vraiment de ses repères, du cadre de sa vie qui était déjà un peu remisé, et puis par rapport à ce qui advient de ce monde, en effet, avec des détails précis qui documentent, qui ancrent tout ça dans une époque qui est celle du réchauffement climatique, etc. Les acteurs sont Ethan Hawke et Amanda Seyfried, ils sont super, le film est vraiment, vraiment splendide du point de vue de la mise en scène. Voyez-le. Voilà.
En VOD seulement, oui. Ce film de Paul Schrader qui s'appelle First Reformed.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Dernière séquence de cette dispute cinéma, toujours en public, au Bel Air, je pense que ça s'entend. C'est Le Grand Bal de Laetitia Carton, un titre qui évoque le bal de Gentine dans l'Allier, où chaque été, plus de 2000, 3000 personnes se rassemblent. Ils viennent de toute l'Europe. Et pendant 7 jours, 8 nuits, ils vont danser. C'est une version joyeuse et tournée vers la vie, finalement, de On achève bien les chevaux.
Au Grand Bal, depuis 27 ans, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. Toute la journée, on apprend des danses dans des ateliers. Et les soirs, c'est les bals. On peut danser jusqu'au petit matin. Et là, on recommence. Et entre-temps, on essaie de voler quelques heures pour dormir. On est plus de 2000 à perdre comme ça ensemble la notion du temps.
C'est génial de se faire inviter à danser, quoi, aujourd'hui.
Quelqu'un que tu ne connais pas et que peut-être tu ne reverras pas et que tu as passé un moment comme ça. Ce côté éphémère, ça crée une poésie humaine, je trouve ça beau.
Le bal, c'est un des rares espaces où on se touche, même si on ne se connaît pas, où les corps se rencontrent. Danser à deux, à 4 ou à 100, c'est toucher en moi la joie pure.
Il y a une connexion, mais qui est liée à l'envie de vivre. Et on sent ça ici.
3, 2, 3, 4. Le nombre de mecs aujourd'hui qui me demandent que je les guide, c'était pas ça avant.
C'est bien.
Bon, on ira plus tard.
Le Grand Bal de Laetitia Carton, lui aussi sorti mercredi dernier. J'imagine peu d'écran, hélas. Alors, j'ai lu un long et bel article de Charlotte Garçon dans Images Documentaires et j'ai découvert donc que je connaissais Laetitia Carton, mais de sa première vie de plasticienne, Clermont-Ferrand. Je l'ai invitée quelques fois sur cette antenne. C'est une jeune plasticienne, c'est remonté à 15 ou 20 ans. Alors donc, en vous lisant, j'ai constaté qu'il s'agissait bien de la même personne, ce nom me disait quelque chose, et qu'il y a des bifurcations heureuses, puisque c'est donc dans son post-diplôme des Beaux-Arts qu'elle s'est plutôt orientée vers le cinéma. Alors donc, du coup, forcément, Charlotte Garçon, j'ai envie de vous demander si vous voyez là un film d'artiste.
Je savais que vous alliez... Les deux ont fait les Beaux-Arts, et effectivement, Virgile Vernier et Laetitia Carton, il est bon de voir que leur parcours diverge à partir d'une hybridation documentaire-fiction pour les deux, car ce film qui se présente, bien sûr, avant tout comme un documentaire, a quand même des parties fictionnées. Et si on reste au générique, on voit qu'il y a des remerciements pour les scènes de fiction, dont on ne sait pas exactement lesquelles. C'est des petites scénettes, à mon avis, qui ne sont pas désignées comme telles. J'ai énormément aimé ce film. Je suis un petit peu déçue. Je croyais, comme vous aviez mis ça à la fin de l'émission, qu'on allait ensuite faire un bal ici.
Mais c'est prévu.
Au Bel Air.
D'ailleurs, il y a un public nombreux ce soir. Pas 2000, mais quand même pas mal.
Bon,
on va tous danser
jusqu'à la semaine prochaine.
En 7 jours, minuit, nuit.
J'engage les spectateurs qui vont le voir à trouver une séance avec un bal après, ce que j'ai fait il y a quelques jours. Donc j'ai revu le
Nous
film.
Nous avons d'ailleurs les images.
Et c'est effectivement. Alors il y a cette dimension dans ce film qui donne envie de danser et de participer à quelque chose qui est de l'ordre de l'amateur au sens noble. C'est-à-dire que peu importe que vous ne sachiez pas danser, justement, tout vous montre que. C'est pas la question, c'est jamais une question d'expertise, même si en réalité le film, à mon avis, est beaucoup plus a une dimension beaucoup plus grande et importante que ça, ce qui est déjà beaucoup, à savoir donner envie au spectateur qui, par définition, est coincé dans son siège, de passer à autre chose, de beaucoup plus physique quand il sort de la salle. Mais du point de vue du documentaire, je trouve que c'est un film passionnant parce que le bal, tel que le grand bal, c'est-à-dire ce festival, on peut dire, ce festival de danse traditionnelle, avec des gens qui viennent effectivement enseigner un peu les pas, et puis des gens qui, en fait, est constitué de manière assez rigoureuse dans l'espace de cercles concentriques. Donc au milieu, il y a les musiciens. Ensuite, autour, il y a les gens qui savent très bien les pas. Et puis, plus on s'écarte, plus on a des amateurs, voire des gens qui
regardent.
Tapisserie. Ça arrive à tout le monde. Et on le comprend aussi dans le film. Or, cette structure spatiale en centre concentrique me semble très, très bien utilisée dans le film. D'abord parce que c'est un défi à la mise en scène. Où est-ce qu'on se place? Où est-ce qu'on se place près des musiciens pour le son, ou bien près des gens qui sont plutôt des amateurs, qui ne savent pas s'ils vont se lancer, etc. C'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que ça pose à la mise en scène énormément de questions, de même que la langue des signes en a posé à Laetitia Carton dans son film précédent. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd, puisque quelqu'un qui signe, on ne peut pas faire un gros plan, il faut prendre tout son corps et en même temps il faut voir les expressions de son visage. Donc je trouve le film très très riche parce qu'il s'intéresse aussi à la mise en scène à travers ces questions, et ces questions aussi de filmer de jour comme de nuit. Je crois qu'il y a deux équipes pour pouvoir couvrir tout ça. Et voilà, moi je suis vraiment transportée.
Alors les deux dieux du dance floor que sont Philippe Azoury et Julien Gester vont s'exprimer.
J'adore danser.
C'est ce que je viens de dire. Dieu du dance floor, numéro 1, Philippe Azoury sur le grand bal.
Justement, j'adore danser. Alors effectivement, je suis la mazurka, pas terrible, valse, polka, bourré, cercle circassien, c'est ça. Scottish, ça je sais pas.
Mais Scottish, je crois que vous êtes assez fort quand même.
Non, Scottish moyen. Je fais très bien l'adapté, mais ça les auditeurs s'en foutent. La danse traditionnelle libanaise. Mais je suis plutôt ce qu'on appelle un knee dancer. J'ai plus tendance à. Effectivement, je connais aussi le côté. On achève bien les chevaux, mais plus les clubs et after clubs à Berlin où on reste 3-4 jours sans se coucher. Mais ce film m'intéresse là-dessus parce que d'une certaine manière.
Salut Ludovic Pietoni, notre correspondant à Berlin qui était correspondant en Bel Air ce soir.
Je le salue, je sais où le retrouver aussi.
Il est très fatigué par les nuits berlinoises. Bon, Philippe, le film, c'est Laetitia Carton, le grand bal.
Non, mais c'est ça que je trouve intéressant dans le film et qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que ce film, qui est très régional, d'une certaine façon même vernaculaire, raconte toutes les expériences de danse et de dépassement des limites par la danse et des expériences émotionnelles qui viennent de l'extase, de la très grande joie, une émotion presque incontrôlée, mais aussi ce sentiment qu'on a parfois de se prendre un mur et de se sentir totalement seul, totalement inadapté social, refoulé par les gens. Elle dit paria du dance floor, et tout ça est réel. Je partage moins avec Charlotte cette histoire justement de positionnement.
je ne trouve pas la danse merveilleusement bien filmée, et c'est quand même un problème dans la mesure où jamais je ne vois ce que j'ai toujours préféré dans la comédie musicale hollywoodienne, c'est-à-dire qu'on voit le corps en entier, de la tête jusqu'aux pieds, et c'est très très important pour voir qui danse bien, ça je ne le vois jamais, le corps est toujours fractionné, c'est un véritable problème. Et j'ai un autre problème, c'est que moi qui aime beaucoup toutes les musiques, y compris même ces musiques-là que je n'écoute pas, mais j'ai une attention, je pense qu'au son, l'ancien Latina, comment ça s'appelle,
Luminor,
cet après-midi, je trouve tout est dans les aigus, et je pense que le micro qui a été utilisé n'est pas un micro qui a été pensé pour enregistrer de la musique, même de façon quasiment documentaire, et du coup ça donne une platitude à l'ensemble. Ce qui est bête, parce que dans la structure, il y a vraiment quelque chose que moi me séduit, parce que vraiment elle dépasse le vernaculaire pour donner une sensation, notamment toutes les interviews avec des gens très jeunes, ou même des gens un peu plus vieux, des passages de génération, il y a des choses vraiment, vraiment, il y a des fulgurances qui sont très très belles dans le film.
Julien Gester.
Je rejoins un peu ce sentiment nuancé, c'est-à-dire qu'à la fois je suis très séduit même par le projet du film tel qu'il se donne à nous, et quand je dis tel qu'il se donne à nous, c'est par le film, parce que je savais pas grand chose de ce que j'allais voir quand je m'y suis rendu, c'est-à-dire de se confronter à vraiment purement à la question des corps dans ce cadre-là, sur cette durée, cette course d'endurance en quelque sorte, mais aussi on est au-delà du décalage parce qu'il y a trop de disciplines, il y a trop de danses différentes dans des paramètres de vie et, et d'agencement des corps qui sont sans cesse rebattus par l'enchaînement des concerts, et puis on voit des gens qui essaient de faire leur programme et qui disent ça va être impossible aujourd'hui parce qu'il y a toutes les musiques traditionnelles super de France qui jouent en même temps. J'aime le fait que le film soit dans une attention vraiment à la danse, qu'il soit pas dans de la vignette. J'aime qu'il soit dans une attention en tout cas théorique à la musique, même si je rejoins Philippe sur le fait que je trouve que le film pêche au son, c'est-à-dire que c'est peut-être un problème de moyens, c'est peut-être un problème d'ambition, je sais pas, mais que en fait il y a quelque chose dans le rendu justement de l'écoute de ces musiques qui est pas à la hauteur de l'oreille que le film leur tend, notamment en termes d'économie de durée, ce qui est un truc très rare finalement dans le documentaire sur ce type d'événement, sur ce type de manifestation, de pouvoir véritablement entendre dans leur durée relative en tout cas les musiques, etc. J'aime que le projet du film soit pour presque prolonger, même un peu radicaliser ce que vous disiez, Charles Garçon, que de vouloir emmener le spectateur à prolonger physiquement ça, sauf que je trouve que ça se passe même dans le temps du film, c'est-à-dire qu'il y a clairement un allongement des durées, des séquences, on travaille vraiment sur le rythme du film pour que le film à un moment donné fasse quelque chose physiquement, fasse rentrer dans la mêlée le spectateur. Le problème, c'est que là où je rejoins Philippe, je trouve qu'il y a un défaut, peut-être, je sais pas s'il faut dire de grâce, parce que c'est quelque chose de très impalpable, de très subjectif, mais il y a un endroit où ce projet-là, pour moi, ne se réalise pas totalement. Où j'ai déjà vu la danse mieux filmée au cinéma, j'ai déjà vu la musique mieux écoutée au cinéma, même si, encore une fois, ce sont des entreprises rares, voilà, et que je trouve que le film va dans la bonne direction. Je suis pas fou de cette voix off qui embrasse tout ça d'une manière un peu plaintive, un peu empreinte de grandiloquence, parfois même de religiosité. On croit reconnaître parfois des bouts de phrases et puis on s'aperçoit au générique que oui, en effet, on les avait peut-être déjà lus ailleurs. Ça, tout ça se centre aussi ça sur une subjectivité qui est mal située à un endroit où le film se refuse à faire par exemple de la sociologie, ce qui n'est pas une évidence sur un sujet comme ça. Évidemment, l'œil capte que on ne croise que des personnes blanches, un peu comme au Bel Air, au bar de la Maison de la Radio.
Oui, il y a un danseur noir.
Oui, mais il est payé pour être là. Non ? Pardon. Non. Ah non, sur scène. Ah oui, non, bon, alors ça m'a échappé.
Parmi les couples qui dansent.
Mais globalement, le film, pardon.
Alors, il y a au Bel Air, je ne sais pas.
Ouais, mais... il se cache peut-être derrière le pilier là-bas. Mais le film se refuse à faire quelque chose qui pourrait être une question, la sociologie, mais du coup insère aussi un point de vue, une voix qui est ancrée, qui parle de sa grand-mère. Je ne sais pas si elle parle, si c'est la réalisatrice qui parle.
Quelques réponses à votre garçon rapidement.
Oui, c'est là où je crois qu'ils sont disponibles en DVD, les films précédents de Laetitia Carton aident à se familiariser, je dirais, avec cette voix off, qui peut paraître un peu plaquée là. Où, effectivement, elle parle à la première personne puisqu'elle va à ses balles depuis 25 ans et elle le dit. Et en même temps, on a un effet hors sol qui peut gêner et de textes, notamment de textes de Christian Bobin. Mais alors moi, je m'y suis habituée de par les précédents films. Et finalement, ce qui est très touchant aussi dans son premier film, film de long métrage La Pieuvre, c'est que sa famille est frappée par une maladie, la danse de Saint-Guy, c'est-à-dire la maladie de Huntington, et que se résout aussi quelque chose sans doute de très très fort dans la danse. Et ça, on le sent quand même, on sent que tous ces films sont traversés par cette question de la transmission de quelque chose, mais par le corps. Et quand vous dites que le film ne va pas dans une certaine direction, pour moi, il va dans une direction politique. Il y a notamment une drôle de scène où c'est une gavotte, chantée en wolof et ralenti, et on voit les gens qui, ce qu'on appelle en chaîne, c'est-à-dire en ligne, comme ça, qui défilent. C'est une sorte de travelling inversé, puisque la caméra ne bouge pas, mais les gens, eux, défilent. Moi, j'ai cru à du Piero della Francesca. Enfin, tout à coup, on voit l'humanité qui défile à travers ces visages.
C'est extraordinaire. On parlait Julien, où effectivement, on peut des fois avoir des résistances, mais à ce moment-là, il y a une empathie totale avec la grâce du film.
Allez voir le grand bal et danser après avec Charlotte Garçon, le grand bal de Laetitia Carton. Il est grand temps de passer au jeu de la dispute. Sarah Dion nous a rejoint, comme chaque soir. D'abord, Sarah, vous nous rappelez la question du jeu d'hier soir et nous donnez sa réponse.
Oui, la question était: quel est le nom de la technique picturale consistant à peindre à l'encre de Chine ?
La réponse
était le lavis.
Ce soir, des invitations à gagner pour le festival Histoire de cinéma. Ça se passe à la Cinémathèque de Toulouse, une bonne maison. Du 9 au 17 novembre, quelle question ?
Qui a fondé la Cinémathèque de Toulouse ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Vous pouvez avoir tous les renseignements que vous souhaitez sur cette émission en vous connectant au site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner bien sûr au podcast. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Lily Bloom, Anna Sigalevitch et Marie Sorbier. À notre affiche Sopro de Thiago Rodriguez, c'est au Théâtre de la Bastille, dans la luge d'Arthur Schopenhauer. Yasmina Reza, mise en scène Frédéric Belli-Garcia, c'était à la Scala, Paris. Et le syndrome du banc de touche de Léa Girardet, mise en scène Julie Bertin, au Théâtre de Belleville. Il y aura également un coup de cœur de Marie Sorbier pour Casiniente de Daria de Florian et Antonio Taglianari, également au Théâtre de la Bastille.
France Culture, l'esprit d'ouverture.